va prendre la demande.
Merci de me donner ces informations-là qui sont vitales. Je suis un gars que ça fait longtemps qu'il n'est pas allé chez le barbier.
Ça paraît.
Oui.
J'aurais pas osé te le dire, là, mais...
Non, mais c'est vrai.
T'as raison.
C'est, quand tu vas dans un salon, si t'es une fille, à quelques exceptions près, habituellement, tu vas te faire laver la tête, tu vas te faire couper les cheveux, tu vas avoir un brushing. Ça, c'est de base.
Dans le fond, ça permet à la business de faire la distinction entre un botchage de 15 minutes et un cauchemar de 4 heures.
C'est exact. Okay. Puis tu sais, on s'entend-tu que pour une business, c'est important d'être capable de planifier ça pour donner un bon service à la personne qui vient?
Je vous donne une autre citation de Martin Luther King, Alex Frédéric Mignot, dans un courriel adressé au salon de coiffure. Il écrit, c'est ça qu'on dit?
Oui.
Pas pire. Hein? Le fait de forcer une personne non binaire à choisir entre homme ou femme est une forme d'effacement.
C'est pas ça le point.
Alex Frédéric Mignot, qui se prend pas pour un 7-Up flotte, finit par porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Il faut vraiment avoir du temps à perdre en passant.
Incroyable! Et t'as pas idée! T'as pas idée! Bravo au travail de recherche de Max Larouche, qui m'a appris ce matin des choses importantes que je ne savais pas.
Entre autres sur son nombre de plaintes.
C'est un nom à googler, ça, Alex Frédéric Mignot. Entre-temps, le salon de coiffure Station 10 lui offre 3 coupes gratuites et modifie son site web pour ajouter une option de rendez-vous non-genré.
OK, ils se sont fait chier eux autres pour essayer de l'accommoder.
Puis tu sais, on nous souligne, si un bain humilié où l'acceptation des genres et des orientations est ouvert, c'est bien milieu de la coiffure.
Ben oui.
Malgré tout, Alex maintient sa plainte. Le 13 juin 2024, la CDPDJ reconnaît qu'Alex Frédéric Mignot a été victime de discrimination fondée sur l'identité de genre. Elle suggère à Station 10 de verser 500 $ à la personne plaignante comme mesure de redressement.
Ça va, eux autres?
Les propriétaires du salon de coiffure ne veulent pas payer, et je les comprends. Alex Frédéric Mignot porte alors la cause devant le tribunal des droits de la personne. Lourd, lourd, lourd.
Pauvre salon.
La personne plaignante allègue que la discrimination subie, et là, attachez-vous, a détérioré sa santé mentale, ce qui a précipité son arrêt de travail et contribué à ses idées suicidaires.
Change de salon.
On m'a demandé de choisir entre une coupe homme et une coupe femme et j'ai pensé à me suicider.
Puis il y a des gens qui lui donnent raison.
Je peux-tu te dire qu'être non-binaire, j'essaierais d'y trouver son adresse pour y parler un petit peu? Genre, ça te dérangerait-tu de sauter à la prochaine cause? On passe pour un paquet de garlots à cause de toi, là. Je dois choisir entre une coupe homme et une coupe femme. Je vais me suicider.
Je devrais pas rire, c'est juste que je pensais vraiment pas qu'on s'en allait là, là.
Moi, je trouve ça triste pour le salon de coiffure.
Ben, qui a tout fait en passant. S'il avait été réticent dès le début,
si,
ben là...
Si, mettons, là, quand il avait appelé, les gens au salon auraient fait « Hey, t'es pas un gars, t'es pas une fille, on veut pas te voir chez nous, c'est dégueulasse. » Ça, c'est de la discrimination.
Ben oui.
Ça, c'est terrible. Ça, ça mérite d'être dénoncé. Mais des gens qui veulent bien faire les choses,
et
qui essaient de s'adapter à une société en mouvance, puis qui se font dire « Non, vous êtes coupable de discrimination. » Je trouve ça scandaleux. Puis jamais ce salon-là aura les moyens de monter plus haut pour dire à quel point il ne faut pas que ça fasse jurisprudence. Là.
Juste rappeler que dans sa première interaction, le salon a été hyper accommodant en disant « Regarde, coche n'importe lequel, puis viens nous voir. On va te couper les cheveux. »
Puis on va arranger la situation.
Puis après ça, quand il a commencé à faire son show de boucan, ils ont donné 3 coupes gratuites. Puis on rajoutait à la case. Regarde, on va y faire ma boîte. Là. Ah, parce que là, c'est lourd.
Ils sont bons parce qu'on est une coupe qui aurait fait « Ils mangent la chenoute puis va ailleurs. »
Ben là, faut croire qu'ils se sont tannés parce qu'après la poursuite, écoute ça, là. Alex Frédéric Mignot a demandé à la cour 12 500 $ pour préjudice moral, préjudice matériel et dommage-intérêt punitif.
Ah, lui, il se fait du cash. Là.
En face, parce que la Station 10, le salon de coiffure, cette année, ont décidé de réclamer 5 000 $ en dommages-intérêts pour abus d'utilisation des tribunaux. Et comment ça se fait que le juge ou qu'un juge n'ait pas sauté là-dessus mm-hmm. pour juste mettre la ligne à quelque part puis dire on a tous des droits,
assez,
mais il y a des limites à vouloir crosser le système par narcissisme, par maladie mentale ou juste pour vouloir crossoyer le système.
Combien de permis ou ils l'ont pas permis?
Quand il a fait son burn-out puis qu'il a rempli ses papiers pour le burn-out, y a-tu écrit que le burn-out était parti du fait qu'il fallait qu'il choisisse entre une coupe homme puis une coupe femme? C'est-tu écrit dans ses papiers pour prouver son...
Pense pas.
T'as-tu le nombre de plaintes que cette personne-là a fait dans les dernières années?
Je veux juste d'abord vous dire que Alex Frédéric Mignot n'est pas dans l'actualité pour la première fois.
Non.
Et dans ce cas-là précis, le tribunal a tranché en disant c'est pas 12 500 d'un bord puis 5 000 de l'autre, mais je condamne quand même le salon de coiffure à payer 500, ce que je trouve complètement stupide, ridicule, arriéré, tout ce que vous voulez. C'est de l'anti-progrès. C'est pas compliqué, là. Pas penser qu'on a fait une victoire pour la société avec ça, là. Alex Frédéric Mignot est cette même personne qui avait fait la grève de la faim pendant 12 jours pour pouvoir mettre un X rouge sur sa carte d'assurance maladie. Fait que tu sais, comment je dirais bien ça? Le problème, c'est pas le genre. C'est pas le pénis, c'est pas le vagin, c'est pas ce que tu penses que t'es ou ce que tu penses que t'es pas. Le problème, c'est toi, en tant que tel.
Je vous rappelle que de mettre un X sur sa carte d'assurance maladie, si t'es un homme, ça t'empêche pas de pogner un cancer de la prostate.
Moi, là...
Ah, oh, ça me choque, ces histoires-là.
Tu sais...
Ça me choque pour les gens qui sont véritablement victimes de discrimination.
Oui, exact.
Tu sais, mettons, cette personne-là, parce que c'est une centaine de plaintes sur 10 ans sur l'identité de genre que Alex Frédéric Mignot a déposé au film.
Combien?
Une centaine.
Il fait ça à l'année longue.
C'est un article de La Presse qui remonte à 2024 de Vincent Brousseau-Pouliot qui raconte que les plaintes ont porté... ils ont fait ça à la banque pour un billet d'avion, pour une carte de fidélité à l'épicerie, pour aller voir un spectacle à Laval où on lui demandait si c'était homme ou femme.
Une personne comme ça, homme, femme ou n'importe quoi entre les deux, une personne comme ça devrait se faire rappeler à l'ordre sévèrement par une justice qui est juste.
Oui.
Parce que les abus, on n'accepte pas ça. Et les crosseurs de système, on n'accepte pas ça non plus.
C'est parce que ça les réactions extrêmes.
Puis ça nourrit les préjugés.
Tu peux juste... On s'éduque là-dessus, là.
Oui.
C'est relativement nouveau dans l'histoire, là. On apprend tous. Puis depuis que le monde est monde, sur une petite coche à cocher, c'est homme ou femme. On apprend. Ça se dit de façon hyper polie.
Puis de pas avoir la petite coche, peut-être que l'organisation y a juste pas pensé encore. Peut-être qu'elle n'est pas rendue là. Dans le cas d'une coupe de cheveux, peut-être ça pique juste
salut.
Pas, là.
Je suis arrivée sur ton site puis je me suis demandé où est-ce que je me retrouvais parce que je m'identifie pas à rien de ce que j'ai vu sur Internet. Y aurait-tu moyen de l'ajouter? Puis en passant, mon pronom, c'est ça puis ça. Hey, ça peut être
c'est
simple.
C'est pas obligé de faire un encours.
Pendant ce temps-là, les vrais problèmes sont banalisés. Puis il y a un auditeur qui vient de nous écrire. Puis je vais prendre ses mots à lui. Il y a des mots d'église, là, mais je trouve ça important. Il dit « Mon enfant s'en crisse bien raide du X sur la carte d'assurance maladie. Il est pas bien avec son corps et on a attendu plus de 5 ans pour avoir de l'aide. Il a fait 2 tentatives dans le mois de septembre dernier. Ça nourrit des préjugés. » Comme tu dis, Véro. Tu sais, le X à la carte, il veut rien dire. Il n'avance en rien la cause de qui que ce soit. Là, il y a des gens qui se prennent pour des Martin Luther King, puis tout ce que c'est des grains de sable d'une roue et dans un système qui n'en a pas besoin. Faut dénoncer les abus, d'où qu'ils sortent et d'où qu'ils viennent.
C'est-tu ce que je trouve triste? La manière d'agir du salon aurait dû être soulignée positivement par cette personne-là.
Ben oui.
Ils en ont fait bien plus que la majorité.
Oui, mais imagine qu'au lieu d'une plainte, il met sur ses médias sociaux, hey, « Regardez, c'est ça la société qui évolue, c'est ça faire preuve d'ouverture, c'est répondre de cette manière-là. » Pareil, comme, tu sais, il y a des organismes qui viennent en aide aux personnes handicapées qui vont souvent dénoncer des problèmes d'accessibilité.
Oui.
S'il n'y a pas de changement quand tu le demandes, oui, ça vaut la peine d'aller plus loin. Mais quand c'est bien fait, ils vont souligner, dire « Hey, ils se sont adaptés de telle manière. » Il me semble que c'est... d'inspirer par l'exemple plutôt que par une espèce de répression niaiseuse de Don Quichotte.
C'est des gens qui sont des nuisances pour leur propre cause.
Exact.
Puis tu sais, moi je compare ça à plein de banalités auxquelles n'importe qui fait face. Tu sais, tantôt, je prenais l'exemple de mon gars qui avait les cheveux longs qui s'est fait prendre pour une fille dans une partie de hockey. Tu sais, c'est ça être mégenré, là.
Au nombre de bébés pas les oreilles percées qui sont fait dire beau petit gars alors que c'est une fille.
Je vais prendre un autre exemple. Moi, j'ai la garde de mes enfants, OK? Et on a tout le temps de la paperasse à remplir, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour avoir des papiers, puis ainsi de suite. Puis dès qu'on les inscrit à quelque chose, il y a de la paperasse à remplir. Puis des fois, dans la paperasse, j'ai pas ma case. Papa qui a la garde. Tu sais, pour définir ce que je suis par rapport à mes enfants, les cases n'existent pas parce que dans bien des formulaires, de facto, c'est la mère qui est responsable. Ça s'explique en l'espace d'un téléphone.
Quand est-ce que tu es allé au tribunal pour ça?
Puis je dors le soir après. Puis les gens sont super gentils quand tu prends le temps de leur expliquer. Puis des fois, dans un formulaire, il y a de l'espace aussi pour décrire quelque chose au-delà d'une case.
Effectivement.
Puis s'ils ont des questions, ils appellent. Puis t'expliquent. Puis le monde se comprenne, puis on passe tous à autre chose. On peut prendre un paquet d'exemples comme ceux-là. Il y a eu un service exceptionnel... Et il y a eu le culot de traîner ce salon de coiffure-là en cours. Honte à cette personne, égocentrique, narcissique, qui essaye de nous faire croire qu'elle a eu un burn-out et des idées suicidaires parce qu'on lui a demandé de genrer sa coupe de cheveux.
Puis que ça a fait avancer une cause.
Come on. Come on. Fait que c'est ça l'histoire, genre.
Tu vois, quand tu l'as teasé, je pensais que j'allais avoir des affaires à te dire, puis j'avais envie de jouer à l'avocat du diable.
C'est
j'avais
tough,
comme envie de.
Finalement, t'as pas le goût de faire ton barreau?
tu comprends-tu pourquoi je t'en joue à le vert?
Ben non, mais ça, oui, absolument. Ça fait du sens. Puis tu sais.
Hey, je m'en sac de ta croisade. Je veux juste savoir si je te fais ton tour d'oreille, puis je te rase ta petite barbe. Tu veux-tu garder ton pinch?
Une autre affaire que je trouve triste, c'est que ce salon-là qui a fait des efforts, probablement qu'il aurait plus le goût d'en faire.
C'est sûr. C'est sûr. La prochaine fois que quelqu'un va le dire. On se dit, hey, pas un autre. Puis c'est ça qui est malheureux. Parce que des crosseurs, t'en as qui sont hommes, t'en as qui sont femmes, t'en as un paquet entre les deux. Mais parce que c'est quelque chose d'émergent, puis tu l'as bien expliqué tantôt, Audrey.
Ça évolue, ben oui.
Il y a plein de monde qui sont prêts à tout le garrocher les blâmes de la planète. On l'a vu avec les trans. À une certaine époque, c'était les Noirs. À une certaine époque, c'était les musulmans. Puis ainsi de suite. On est comme ça. On est d'une société remplie de préjugés, remplie de racisme, remplie d'ignorance.
Puis tout ce que ça fait, c'est nourrir les intolérants.
Exact.
À petite cuillère.
Si c'est la seule façon que tu trouves d'avoir raison, pour moi, t'as tort sur toute la ligne. Il est 17h13. Vous êtes à Boulevard 102-1. Dans le parti de l'extrême-centre, nous acceptons les hommes. Les femmes, les trans, les non-binaires, les locomotives, les magasins généraux, les bicyclettes, les microphones, les tasses à café, les ovnis.
Les chiots.
Les chiots.
Les chiens.
On accepte toutes. Êtes-vous heureux? Est-ce que vous passez votre vie à enculer des mouches? Non? Bienvenue dans l'extrême-centre. On va être heureux toute la gang. Soyez fiers de ce que vous êtes. Puis laissez pas des choses comme ça vous démonter dans votre recherche d'identité. La recherche d'identité, c'est pas un X, c'est une carte, puis c'est pas le nom d'une coupe d'un salon de coiffeur. C'est bien plus important que ça. C'est bien plus important que ça. Soyez fiers de ce que vous êtes. Puis laissez pas les autres vous dire ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. C'était le bout de sérieux. Ris pas.
Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis un avion de chasse. »
Ben oui. Ben t'es heureux. Good!
Seigneur Dieu!
Vol plané, on revient.
et aider à éviter près de 1,7 million de tonnes de gaz à effet de serre. Gardez les applaudissements pour plus tard. On a 25 autres années à préparer. Énergir. Pensez l'énergie autrement. Plus d'informations au efficacité.energir.com.
Boulevard. Chaque jour de la semaine, Denis Gravel et Yannick Marceau traitent des dossiers chauds du jour. Puis qui l'eût cru, ils pensent pas la même affaire.
Envie d'un été actif et rempli de plaisir? Les inscriptions sont maintenant ouvertes au DEC Hockey de la capitale. Ligue junior et Ligue adulte. Deux complexes pour jouer tout l'été à Chauveau et à Saint-Augustin. Inscrivez-vous dès maintenant au ddlc.ca.
Attends, tu me dis que les huîtres sont à 1$ tous les soirs?
Oui, oui, tous les soirs, dès que tu prends place au bar.
Donc, après le travail, avant un spectacle ou juste parce que j'ai envie d'huîtres, c'est toujours 1$?
Exact!
OK, là, ça change mes plans.
Ophélia sur Grande Allée. Les huîtres à 1$ au bar, tous les soirs. Restaurant Ophélia.com.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par Mercado.fr.
Obtenez un crédit voyage d'une valeur de 1 000 $ à 500 $ chez Agence VSP.
Adjugé. Prochaine offre.
Et une nuitée pour deux personnes en micro-chalet d'une valeur de 270 $ à 202 $ chez Tanière Micro-Chalet Charlevoix.
Adjugé à monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fr.
Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers.
Chez Desjardins, on croit que le REER et le CELI sont des sujets passionnants. Mais c'est peut-être pas le cas pour David ici. C'est donc l'heure de réveiller votre intérêt pour le REER et le CELI.
De quoi on parle?
De cotiser un REER et d'utiliser le remboursement d'impôt pour alimenter le CELI à l'abri de l'impôt.
Ça réveille du bon pied.
Cotisez en ligne dès maintenant sur desjardins.com/REER-CELI. Certaines conditions et modalités s'appliquent.
Chez Lévis Subaru, découvrez le VUS électrique parfait pour l'hiver. La Subaru Solterra 2026 impressionne par sa performance et sa traction intégrale. En ce moment, profitez d'un rabais exceptionnel pouvant aller jusqu'à 13 500 $. Venez l'essayer dès maintenant chez Lévis Subaru.
LévisSubaru.com.
Grosse nouvelle croustillante avec le retour de l'irrésistible poulet frit Saint-Hubert pour un temps limité. 3 tendres morceaux de poulet juteux et croustillants servis avec les accompagnements et une sauce miel et piri-piri.
La capsule Milan Cortina vous est présentée par Chaloux. Or pour la blonde qui brille, argent pour la Pilsner qui est rafraîchie et bronze pour l'ambré qui étanche ta soif. Chaloux, Beauport Saint-Émile et Sainte-Catherine.
La Minute Olympique à Boulevard 102.1 avec Alex Laramé.
Le Canada ajoute une médaille d'or et une de bronze. D'abord, le Québécois Steven Dubois-Terrebonne a remporté l'épreuve du 500 mètres en patinage de vitesse courte piste. Son compatriote William DeGinou termine en 5e place. Et ensuite, chez les femmes, c'est le quatuor de Canadiennes qui a remporté le bronze au relais par équipe 3000 mètres. Au hockey masculin, le Canada affrontait la Tchéquie en quart de finale et le match s'est terminé en prolongation. C'est Mitch Marner qui a clos le débat pour sceller la victoire de 4-3. Dans les autres duels, la Finlande et la Slovaquie passent en demi alors que c'est présentement 1-0 pour les États-Unis face à la Suède en troisième période. Dans les autres performances du jour, la native de Québec, Laurie Blouin, termine 5e au slopestyle en snowboard. Et la Québécoise Marion Tonneau a pris le 7e rang au saut acrobatique. Résultat, le Canada est 10e au classement avec 4 médailles d'or, 4 d'argent et 6 de bronze.
À Boulevard, on vise l'or. Tous des...
On surveille du coin de l'œil le match de hockey masculin entre les États-Unis et la Suède. Toujours un seul but de marquer alors qu'on est à quoi? 3 minutes de la fin du match. Les Américains tiennent bon, c'est 1-0 face à la Suède. Si ce scénario se confirme, bien on serait bien enligné pour une possibilité de finale Canada-États-Unis dimanche matin. Ce serait un beau get-together, comme on dit. Hey, avant de jaser d'actualité internationale, juste regarder comment ça va au niveau de la circulation et du trafic dans la région de Québec. Audrey.
C'est vraiment rough pour cette heure-ci. Il y a un bon ralentissement si vous êtes sur la capitale direction est. Je vous dirais entre Henri IV et Laurentienne, ouest entre Henri Bourassa et Laurentienne. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction nord, des problèmes à la hauteur de Wilfrid Hamel. Un peu plus haut, dans le coin de Val-Bélair, à la hauteur de l'avenue industrielle Henri IV nord, pardon, toujours au ralenti. Si c'est libéré sur Fossambeau, libéré plus haut dans le coin de Shannon aussi, devant la base militaire. Le gros crunch, là, il est comme direction sud surtout, puis ça traverse les ponts carrément jusque l'autre bord. Là. C'est-à-dire que, dû à des accidents qu'il y a eu un peu plus tôt, Henri IV sud, à partir de Charest, on sent le ralentissement jusqu'à sur la 20 direction ouest. Et même chose pour Duplessis, à partir de Charest jusqu'au pont. Vous comprendrez que sur le pont, c'est bien compliqué aussi. Des problèmes sur la 20 direction ouest, sinon entre la route du président Kennedy et Taniata. Évidemment, vous voyez autre chose, c'est le 418-971-1012, un texto.
La beauté de la radio qu'on fait et qu'on nous donne le privilège de faire, c'est que souvent, on peut s'arrêter pour regarder une situation d'un peu plus près. Dans un bulletin de nouvelles à la télévision, quand on arrive à la section internationale, là, ça tire comme une mitraillette, puis on passe d'un endroit à l'autre.
On prend pour acquis que vous avez vu tous les épisodes précédents.
Oui, ou qu'on s'est tapé tous les documentaires sur Netflix, ouais. Puis qu'on est vraiment à jour, ce qui n'est pas toujours le cas. La Suède, à 1 minute 31 de la troisième période, vient de créer l'égalité dans un match qui va peut-être aller lui aussi en prolongation.
Ce serait le troisième match en prolongation aujourd'hui.
Hey, incroyable. Ben, regarde, on va parler.
Quelle drôle de journée.
Vive la parité internationale, là, la suprématie américaine et la suprématie canadienne.
Ça, challenger.
Ça semble pas mal terminé. Ouais. Bon, on referme la parenthèse olympique, puis on revient à nos moutons. L'actualité internationale, souvent, ça va vite dans nos bulletins de nouvelles télévisées. Puis, on cherchait quelqu'un avec qui on pouvait parler des sujets qui, souvent, nous sautent en plein visage dans l'actualité internationale.
Puis quand géopolitique, ouais.
Quand on a parlé de Cuba, il y a quelques semaines, vous avez réagi fortement à partir du moment où ça visait les vacances qui s'en viennent pour bien du monde.
Ou des gens qui étaient déjà là-bas, qu'on ne savait pas trop comment le rapatriement allait aller. Puis il y a des compagnies qui avaient hésité avant d'annuler les vols. Puis tu sais, il y en a qui voyaient ça. « Ouais, mais moi, je m'en vais là-bas juste pour la plage. » Mais les impacts de cette crise énergétique-là sont tellement plus grands que ça.
On ne les connaît pas.
Et justement, pour en parler un peu plus, puis je me souviens qu'il y a des gens un peu cyniques qui nous avaient fait la remarque, là, le voyage dans un tout-inclus, ce n'est pas la plus grosse inquiétude qu'il y a sur l'île de Cuba présentement. Et cette personne-là avait raison. On va aller rejoindre pour parler de géopolitique. Éric Sauvé, vétéran des Forces armées canadiennes et président d'Innovigo, qui fait de la consultation en défense et sécurité. Éric Sauvé, bonjour.
Oui, bonjour à toi et à l'équipe.
Ça va bien?
Ça va très bien, très bien.
Cuba traverse aujourd'hui une crise majeure qui touche toute son économie, puis c'est inquiétant pour les prochains mois et même pour les prochaines années dans le contexte actuel.
Oui, ben, je pense que c'est la plus grosse crise que Cuba traverse depuis la révolution de 59. Il y a eu une crise quand le mur de Berlin est tombé, quand l'Union soviétique est tombée. Le peso cubain s'est écroulé. Il y a eu des très gros problèmes parce que leur partenaire, c'est la Russie. Mm-hmm. Mais la Russie est revenue quand même, continue à leur fournir du pétrole en échange de canne à sucre, dans le fond, d'autres produits cubains. Ça a été repris par le Venezuela. Mais là, comme tu as mentionné d'entrée de jeu, depuis que Maduro est tombé le 3 janvier, le plus gros partenaire de Cuba est tombé. Puis là, on a une crise pétrolière, mais on s'enligne vers une crise humanitaire aussi. Parce que faut penser au peuple cubain. Là. C'est pas juste les tout inclus. Là. Les gens là-bas vont avoir de moins en moins de bouffe. Les étudiants sont rendus en virtuel comme pendant la pandémie pour limiter les déplacements. Il y a une raffinerie qui a pris en feu. Ça risque de mal se passer dans les prochaines semaines pour la petite île.
J'aimerais ça que tu prennes le temps de nous faire un peu l'historique de l'île de Cuba, comprendre pourquoi l'embargo existe puis pourquoi, au fil des partenariats, on a créé la situation d'aujourd'hui.
Bien, on peut partir assez loin. On va partir de la révolution de Castro, OK? Parce qu'avant Castro, l'île était un peu le bordel de l'Amérique. Il ne faut pas se le cacher. Il y avait le dirigeant Fulgencio Batista. Il y avait des casinos, il y avait beaucoup d'Américains qui allaient là.
On est en quelle année à peu près, Éric, pour nous situer?
Oh, pardon,
situer,
Bien, ça a commencé littéralement. Eux, ils ont débarqué Castro avec son frère Fidel et Raoul. Puis Che Guevara, ils ont débarqué en 56. Mais en 59, ils ont pris le pouvoir. Puis ça s'est fait quand même assez rapidement. C'était une guérilla qui a fait tomber le pouvoir. Puis Castro s'est placé en dictateur assez rapidement avec le communisme, puis s'est distancié des États-Unis, est devenu un partenaire de la Russie et de la Chine en même temps. Puis il a régné pendant au moins une quarantaine, plus d'une quarantaine d'années. Je pense qu'il est en 2008, il est encore président. Son frère a pris le pouvoir en 2008. Raoul a fait quelques réformes. Mais comme j'ai mentionné, quand l'Union soviétique est tombée, ça a vraiment fait mal à Cuba. Ils ont réussi à se repositionner. Éventuellement, là, le nouveau président, Miguel Díaz-Canel, n'est pas quelqu'un de la Révolution. C'est le premier qui n'a pas connu la Révolution, qui est né par la suite. Puis là, il est pas mal dans l'eau chaude en ce moment parce qu'il n'y a plus ses partenaires. Le Venezuela, la Russie l'ont pas mal laissé tomber, la Chine aussi. Fait qu'en ce moment, là, ils sont pas mal isolés comme ils.
Mais c'est pas quelqu'un qui avait essayé justement d'ouvrir un peu l'économie puis d'essayer de diversifier un peu l'économie cubaine?
Bien, quand Fidel a laissé sa place à son frère, Raoul, il y a eu une certaine ouverture. Puis quand le dernier président a pris la place aussi, il y a eu une certaine ouverture. Mais ces gens-là croient quand même aux idéaux de la Révolution. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là, mais il y a des photos de Che Guevara partout, oui, puis vivant la Révolution. Puis ils croient à ça, puis ils ont essayé de l'exporter. Fait que c'est vraiment des believers qui croient que ça peut continuer. Mais là, en ce moment, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Puis quand le gouvernement n'arrive pas à fournir les services de base, c'est-à-dire, entre autres, le pétrole, mais tu sais, je veux dire, la nourriture, le logement et tout, là, ça va créer du mécontentement. Puis les Américains mettent une pression énorme. Là. C'est vraiment un étranglement du régime auquel on assiste.
Qui aide Cuba présentement dans la crise actuelle? Y a-tu un pays, y a-tu des États qui sont capables d'acheminer des biens de première nécessité, puis ainsi de suite, là?
Il y a le Mexique qui voulait le faire, mais les Américains menacent de tarifs très élevés tous ceux qui vont aider Cuba. Fait qu'en ce moment, le Mexique négocie pour aider Cuba. Comme j'ai mentionné, le pétrole, c'est à la base parce que dans le fond, il y a une certaine production pétrolière à Cuba, mais ils n'en ont pas assez pour tous leurs besoins. Le Mexique a offert d'en fournir, puis il en trouve sur le marché noir. Mais je lisais sur The Economist, il disait les gens sur le marché noir seraient fous en ce moment d'aller à Cuba puis de se faire prendre par l'armada qui est encore là. Le risque est énorme. Puis les gens du crime organisé sont là pour l'argent, ils ne sont pas là pour des raisons politiques, hein, qui ne font pas aller dans des endroits que c'est difficile.
Oui, mais là, Éric, c'est parce qu'on ne peut pas les laisser crever de faim non plus. Là. Mais toi, c'est quoi la suite de ça?
Bien, malheureusement, c'est un peu ce qui se passe. Parce que dans le fond, tu as des faucons au niveau du gouvernement américain, dont Marco Rubio, qui est un fils de Cubain, qui est un faucon, qui est partisan de la ligne dure pour faire tomber le gouvernement coûte que coûte. Et puis après ça, peut-être arriver avec des contrats lucratifs pour les hôtels puis dire on va rétablir les choses. Mais moi, j'ai l'impression que peut-être qu'on parle, justement, le gouvernement américain parle peut-être avec l'opposition en disant plus vite le gouvernement castriste va tomber, plus vite l'aide va arriver, t'sais.
Puis évidemment, l'économie touristique de Cuba est une bonne partie de ce moteur-là qui amène de l'argent. Mais là, tout ça est mis on hold aussi en raison de la crise.
Bien, le tourisme, c'est énorme. Le tourisme amène des devises étrangères. Il y a des gens, il y a beaucoup d'exilés cubains qui sont à Miami puis en Floride qui amènent de l'argent. Mais là, l'argent ne rentre plus. L'argent des touristes ne rentre plus. Fait qu'on est dans un cercle vicieux où l'argent ne rentre plus, le pétrole ne rentre plus. Les services de base sont vraiment coupés. J'ai un ami à qui je parlais qui arrive de Cayo Largo, justement. Il est allé puis il m'avait dit qu'il était un peu inquiet d'y aller. Mais Cayo Largo, c'est au large de Cuba, puis c'est une île qui est ravitaillée aux 2 mois. Puis le personnel de l'hôtel me disait qu'à chaque 2 mois, elle allait voir leur famille. Mais là, il ne savait pas quand est-ce qu'il allait quitter. Puis il dit, là, littéralement, on voyait des gens pleurer souvent dans les corridors, tu sais, les gens de l'hôtel. Puis quand lui est parti, l'hôtel a fermé, puis il commence à regrouper des gens dans des plus gros hôtels pour limiter la consommation de pétrole et d'électricité. Mais là, justement, ça va très, très mal. Comme, je vois pas qu'est-ce qui peut arriver à moins que les Américains laissent de l'aide extérieure arriver du Mexique ou d'ailleurs.
Si la situation ne change pas, Éric, ça peut toffer combien de temps cette crise-là à Cuba avant vraiment là, qu'il y ait des...
Ça devienne risqué.
Oui.
Mais là, c'est la question qui est difficile à répondre parce que les Cubains ont souffert régulièrement depuis 1959, puis même avant, puis sont quand même habitués à avoir peu de ravitaillement, à avoir des pénuries.
Platement parlant, oui.
Non, mais c'est vraiment, c'est un peu leur vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Cuba. Moi, je suis allé 2 fois, là, dont une fois comme en sac à dos. Là. C'est vraiment triste, la situation. J'étais jeune dans la vingtaine, Et puis, on avait accès à plein de choses. C'est-à-dire, on avait l'impression que les Cubains étaient des citoyens de deuxième classe, mmh, littéralement, mmh, dans leur propre pays. Ils sont habitués à ça. Mais là, est-ce qu'ils vont accepter de souffrir encore longtemps? Parce que là, justement, ils ont accès, ils ont vu pendant des années à quoi l'Occident a accès, la richesse qu'il amène. Ils voient ça sur les réseaux sociaux aussi parce qu'ils ont quand même accès à tout ça. Est-ce que la jeunesse va se rebeller? Il y a beaucoup, beaucoup d'emprises du gouvernement cubain, du renseignement, la police, le contrôle, puis il y a beaucoup de prisonniers politiques à chaque manifestation.
Éric, je suis allé à Cuba une fois, puis en même temps, j'ai le goût de dire, je suis pas vraiment allé à Cuba parce que je suis allé dans un tout-inclus.
C'est un univers à part, j'imagine.
Je vais te le dire, tu n'es pas allé à Cuba.
Ben, c'est ça, puis je l'avoue, mea culpa, mais j'ai l'impression que l'industrie touristique, c'est une arme à double tranchant parce que tu t'en vas jouer au prince dans un pays où les locals te torchent littéralement et eux autres en viennent, j'imagine, à haïr notre mode de vie, ce qu'on est, puis ainsi de suite. Ben, fait que oui, ça amène de l'argent, mais en même temps, comment tu veux faire autrement qu'haïr les gens qui viennent mener la vie que toi, tu rêves d'avoir dans ton propre pays, puis ton île qui devrait être paradisiaque?
Écoute, moi, j'ai visité beaucoup de pays d'Amérique latine. Okay? C'est vraiment mon lieu de prédilection. Je parle espagnol. Puis quand j'allais à Cancun, je suis allé à Cancun trois fois, mais je suis allé me promener beaucoup à l'extérieur. T'sais, Cancun, c'était mon point d'arrivée. Uh-huh. Puis je disais aux gens qui sont allés à Cancun, vous n'êtes pas vraiment allé au Mexique, honnêtement. Là. T'sais, mm-hmm. C'est la zone hôtelière et tout. Ben oui. C'est la même chose pour les hôtels à Cuba. Je suis allé une fois dans un tout-inclus à Cuba. J'ai apprécié beaucoup. Mais je suis allé quand j'étais jeune comme backpackers. Puis on louait des maisons, on louait des chambres. À l'époque, ça disait des casas particulières, les maisons particulières.
Okay.
Puis on louait chez les Cubains. On est allé se promener à La Havane puis à l'extérieur. Puis honnêtement, sur un voyage de deux semaines, après une semaine, il a fallu qu'on retourne à Varadero dans une maison parce que c'était trop difficile de voyager. Les gens, moi j'avais 20 ans avec mon ami, les gens nous voyaient comme un dollar sur deux pattes.
Ah, ouais.
J'étais un jeune, pas nécessairement riche, mais je me faisais vendre des prostituées, de la drogue, de l'argent, tout plein d'arnaques constamment. Il n'y avait pas moyen d'avoir de quoi d'authentique de ces gens-là.
C'était une opportunité pour eux autres.
Ah, j'étais un dollar sur deux. C'était incroyable. Je veux dire, si j'étais assis dans un restaurant, il fallait que je regarde mon assiette parce que si j'avais le malheur de regarder une fille pendant plus qu'une demi-seconde, la fille se dirigeait vers ma table puis venait m'offrir ses services. Puis là, je parle des fois des femmes avec des enfants dans leurs bras.
Ah, mon fait Dieu, c'était, Seigneur!
Ça, c'était en 96 quand justement, il est en train de se rétablir de la chute de l'Union soviétique. Puis moi et mon ami, on a décidé après une semaine, on n'est plus capable de voir ça. On était frustrés, choqués. Puis pourtant, j'ai fait mes études sur Cuba, sur Che Guevara, sur Castro. Mais de voir l'impact là, de ce régime-là sur les gens. Puis j'ai parlé à des prostituées, j'ai parlé avec des gens, puis ils m'ont dit, les femmes, là, nos femmes font vivre les grands-parents, les oncles, les tantes, les fils, tout ça. On n'a pas le choix de faire ça parce qu'on n'a pas assez d'argent pour vivre. Puis c'est vraiment atroce, puis c'est une catastrophe. Là.
C'est plate de voir que des gens sont prêts à mettre de la pression sur une population puis à l'affamer dans une certaine mesure, juste pour mieux se placer sur l'échiquier politique. Éric, merci beaucoup. Super intéressant de jaser avec toi.
Merci, à une prochaine fois.
À une prochaine fois, Éric Sauvé, vétéran des Forces armées canadiennes, président d'Inovigo, qui fait de la consultation en défense et sécurité, pour nous parler de la situation cubaine.
Puis, actuellement, ce qui fait l'actualité, c'est « Oh mon Dieu, depuis qu'on a arrêté les vols vers là-bas, le prix d'un tout-inclus a explosé.
Mm-hmm. »
Oui, c'est plate pour le consommateur qui veut se payer un voyage. Mais l'impact humanitaire est tellement plus grand que ce qu'on peut voir. Là.
Les Américains viennent de marquer en période de prolongation. Victoire des États-Unis 2-1 sur la Suède et la suite se dessine pour le Canada.
Canada qui va affronter la Finlande, la Slovaquie qui va se retrouver à affronter les États-Unis.
On reparle de tout ça avec les détails dans quelques instants. On va se brancher avec Max Larouche pendant que les États-Unis célèbrent. Ça a été une journée très haute en émotion pour les amateurs de hockey de la planète, mais présentement, les astres semblent nous diriger vers la finale qu'on veut dimanche matin.
Si ça vous intéresse, c'est Quinn News qui a permis aux États-Unis de remporter le match contre la Suède en prolongation.
Le podium goal!
Arrête, ils ne sont pas encore sur le podium.
Le sait. Gravel. Hello, hello, 17h46. Les journées s'allongent, mais pas au point qu'il fasse encore clair. À Québec, on a toujours moins 2 degrés. Sur les routes, Audrey.
Il y a des problèmes encore assez présents sur Henri IV Sud à partir de Charest jusqu'à l'entrée des ponts. Même chose pour Duplessis Sud à partir de Chemin Sainte-Foy, par exemple, jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Entre Robert Bourassa et les ponts, il y a des problèmes sur le boulevard Laurier pas mal. C'est lourd en ce moment. Quelques grenailles qui restent aussi sur la Capitale-Est, auteur Robert Bourassa. Et c'est lousse. C'est libre. C'est terminé sur la rive sud. S'il y a autre chose, 88-971-102, un texto.
Les genres de nouvelles qu'il faut savoir, Véro.
Oui, voilà. Il y en a une. Marois Risky qui va rester exclue du caucus. C'est la décision que le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a choisi de prendre après avoir rencontré le caucus. Il a d'ailleurs parlé à Marois Risky ce matin avant la rencontre et cet après-midi pour lui annoncer la décision. Il a justifié ça par les enquêtes qui se poursuivent, entre autres de l'UPAC, mais du directeur général des élections aussi, dont les résultats n'ont toujours pas été rendus pour justifier le tout.
Ils ont eu chaud, le conglomérat de millionnaires hockeyeurs canadiens.
Arrête.
Oh, qu'ils ont eu chaud! Faut croire que ça prend pas juste des hôtels 5 étoiles pour performer au niveau olympique. Ça prend un petit peu d'opportunisme, un peu de chance. Quoi qu'il en soit, le Canada va affronter la Finlande et les États-Unis vont affronter la Slovaquie de Juraj Slafkovský. Ça se déroule dans la journée de vendredi. Le Canada à 10h40, les États-Unis à 15h10. Évidemment, on va continuer de suivre ça. Ça a été une journée haute en émotion. Max Larouche, est-ce que tu t'en es remis?
Ben là, c'est je suis remis du Canada. Là. J'ai eu une coupe d'heure, mais Suède, États-Unis, ça a été... pour une bonne partie du match relativement poche, là, un match où les deux équipes manquaient terriblement de finish, notamment, tu sais, la Suède, à la fin, avait tellement besoin d'un but, puis ils tournoyaient beaucoup, ça voulait pas. Finalement, ils ont réussi à scorer, ils amènent ça en prolongation. Troisième game de la journée en prolongation sur quatre dans les quarts de finale. Puis les États-Unis qui se sont sauvés là, avec la victoire. On s'attendait à un match serré. C'est exactement ça qu'on a eu. Mais c'est ça, on a eu trois bons spectacles aujourd'hui. Comme amateur de hockey, on va le prendre.
Comment tu considères ça, la victoire à l'arraché du Canada avec le but de Mitch Marner en prolongation? Faut-tu voir ça comme un avertissement ou la POC roulait juste pas assez pour nous autres parce que ça a été le festival du poteau? Là? Ben, On se serait cru à la sortie du troisième lien sur Pierre Bertrand. Une joke de poteau.
La Tchéquie qui a joué un match presque parfait. Bon, certains diront que ça aide quand t'es 6-7 sur la glace, mais le jeu physique
8,
que les...
Max.
Ouais, par bout
aussi. Sur le troisième but, il était 8. CBC a fait de la capture d'image. Ils ont fait du bon boulot. Il y avait 8 joueurs et un gardien de but sur la glace quand la Tchéquie a marqué son troisième but.
Quelle controverse ça aurait été si le Canada avait dû échapper ce match-là. On en aurait parlé pendant des années, j'ai l'impression. Mais tu sais, c'est ça. Le jeu physique, la Tchéquie a sorti, je pense à Ratko Gudas en défense, qui est un des joueurs les plus haïssables de la Ligue nationale de hockey au grand complet. D'ailleurs, c'est lui qui a blessé Sidney Crosby aujourd'hui. Mais Ratko Gudas, oui, on l'aïe tout, mais on le voudrait tout dans notre équipe aussi. Le gars a pris des minutes, le gars a joué rough d'un coin, le gars a... C'est pas compliqué, les attaquants canadiens avaient peur d'aller dans le coin contre Ratko Gudas qui a comme un peu mené le leadership pour son équipe. Les Canadiens, on dirait qu'ils allaient jouer dans le coin du bout de la palette, ça jouait mou. Mm. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la Tchéquie a joué cette game-là, puis c'est pas nécessairement le genre de game que la Finlande, exemple, là, va jouer. T'sais, la Finlande va être plus en finesse un peu, avec plus de talent brut aussi. Fait que le Canada, j'ai l'impression, le piège était peut-être vraiment aujourd'hui. Puis après ça, la finale, possiblement contre les States, ce sera une toute autre affaire. Puis là, ça va vraiment, ça risque de brasser.
Ouais, les Américains vont jouer des épaules, là, Max.
Mais le Canada qui va devoir le faire aussi. Mais avant de se rendre là, moi, pour la Finlande, je suis quand même confiant malgré le pas pire stress qu'on nous a donné aujourd'hui.
Est-ce qu'on a une mise à jour sur l'état de santé de Sidney Crosby?
Oui, puis non, puis ça sent pas super bon. T'sais, ce qu'on sait, c'est qu'il va devoir y avoir plus de tests. Puis ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. J'ai l'impression que si on avait eu du positif, on aurait déjà une certaine vague de positifs à nous annoncer. Mm. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit quand on s'est parlé en début de show, pendant que tu sortais de la brasserie, Denis. tu sais, pour que Sidney Crosby ne revienne pas en troisième dans un match aussi important, aussi serré, je serais surpris de le revoir dans le tournoi. Il fallait vraiment qu'il soit magané et qu'il soit pas en état de jouer une seule seconde.
Ce qu'il semblait dire, c'est qu'il allait passer, entre autres, des radios ou quelque chose du genre, de exact. L'imagerie, là, pour être capable d'aller plus loin. Là.
J'ai-tu vu, Max, qu'il y avait comme un genre de micro-débat sur ou de micro-controverse sur la présence de Suzuki dans ce match-là?
Ben, en fait, c'est que Suzuki, depuis le début du tournoi, des fois, ça va vite. Puis, tu sais, moi, ma petite théorie à deux scènes là-dessus, c'est que d'habitude, avec le Canadien, c'est le joueur de centre qui est excellent pour imposer le rythme. Et là, dans ce tournoi-là, où il se fait imposer le rythme, c'est un peu plus tough par bout pour Suzuki. Fait qu'en effet, on se demandait un peu, bon, il va-tu jouer, va-tu être le 13e attaquant, va-tu être laissé de côté? Et là, finalement, il y a eu des minutes. Puis, tu sais, j'étais tellement content qu'il score le but égalisateur parce que plus tôt dans le match, t'avais manqué un filet complètement ouvert. Mm. Sur le troisième but de la Tchéquie, quand il était 14 sur la glace, ben, Suzuki avait un petit peu échappé. On pouvait lui attribuer une partie de ce qui a mené au but de la Tchéquie. Fait que, qu'il soit capable de créer l'égalité pour former la gueule à tout le monde, comme Mitch Marner l'a fait d'ailleurs.
Oui.
Puis les partisans des Leafs, c'était drôle à voir aller là, en troisième un bout. C'était tout est de la faute à Suzuki puis à Marner.
Mm-hmm.
Tain! Suzuki qui score le but égalisateur. Marner qui en score un de toute beauté après ça en prolongation. C'est de toute beauté.
En 30 secondes, les deux meilleurs joueurs du Canada aujourd'hui et les deux qui doivent step-upper pour les prochaines games.
Connor McDavid aujourd'hui était partout sur la glace. C'est une réponse facile, là, mais quand je dis partout sur la glace, il était partout sur la glace. Puis Colin, je pense que j'ai envie de te dire, Jordan Binnington, tu regardes au niveau...
Ah, il était incroyable.
Au niveau des tirs, des fois, tu dis, bon, il est même pas à 900. Non. Il a sorti les gros arrêts quand il fallait Jordan Binnington, comme il l'a fait aux Four Nations l'année passée. Pour qui ça a été plus tough, j'ai pas le choix de dire Bo Horvat, pour qui ça va vite des fois. Puis... Bon, à part ça, je veux dire, je pourrais te nommer les joueurs plus de soutien. En même temps, c'est normal qu'on les voit moins. Mm-hmm. Peut-être Makar, j'aimerais peut-être ça qu'il fasse un petit peu plus la différence. Ouais, je vais te dire Makar.
Et du côté des femmes, on est rendu où dans le tournoi de hockey? On est-tu rendu à la finale?
C'est vendredi. Ça?
Vendredi, oui. Yes.
Non, c'est la finale. C'est demain la finale les femmes, si je ne m'abuse. Je suis pas mal sûr que oui. Finale olympique, femmes, hockey.
13h10, t'as raison.
C'est demain ouais. 13h10.
Oh yes, on écoute ça ensemble. Donc, demain. Ouais.
Ça va prendre deux miracles. Un miracle qui s'appelle Marie-Philippe Poulin, puis un autre miracle qui s'appelle Anne-Renée Desbiens, qui est la gardienne de but du Canada. Il va falloir que les deux step up, c'est nos deux espoirs.
Ça serait le fun que leur coéquipière les laisse pas tout seul. Hein?
Oui, mais on se fait au premier match contre les States, ça va être tough.
On te laisse te remettre de tes émotions. Merci, Maxime.
Salut.
Au revoir. 17h54 dans la circulation, Audrey.
C'est vraiment dégueulasse si vous essayez de vous rendre au pont. Ouais, sérieux, là, ça bouge pas en tout. Henri IV Sud, à partir de Charest jusqu'au pont Pierre-Laporte, c'est jam-pack. Duplessis Sud, même chose à partir de chemin Sainte-Foy. Boulevard Laurier, très, très difficile aussi à l'approche des ponts. Pour le reste, ça va à cette heure-ci, mais si vous devez traverser sa rive sud, là, bonne chance.
Gravel. Boulevard.